Bonsoir. Vous écoutez le Café de la Jeunesse, présenté par John John Barry et Alexia Divanac. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous discuterons avec Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales et enseignant-chercheur associé au Centre d'études de recherche internationale. Nous discuterons aujourd'hui de l'immigration et de l'intégration des réfugiés ukrainiens, ainsi que l'assimilation et également la culture internationale et son usage en France, et également comment dans notre monde percevoir les flux d'immigration.
Alors bonjour, monsieur Bertrand Badi, donc vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po. Aujourd'hui, on est face à vous pour vous poser des questions donc, concernant notre projet sur l'Union européenne, sur comment inclure la jeunesse, surtout ukrainienne, dans les institutions et majoritairement dans les institutions et au sein du système éducatif français majoritairement. Donc, c'est un changement de paradigme, vous voyez, que disait le jeudi 3 mars la commissaire européenne aux affaires intérieures Ivla Johnson. Les 27 donc, ont décidé d'appliquer pour la première fois une directive de 2001 qui accorde une protection temporaire aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Ils pourront séjourner durant au moins un an dans l'Union européenne, y travailler, accéder aux aides sociales et au logement, et au système éducatif et aux soins médicaux. Donc, d'après vous, comment inclure la jeunesse ukrainienne dans le système éducatif français et quel dispositif mettre en place à votre sens?
Alors d'abord, la problématique est la bonne, c'est-à-dire nous vivons au-delà même et indépendamment du conflit ukrainien dans un contexte où l'intégration est devenue indispensable. Nous sommes dans un monde interdépendant, nous sommes dans un monde qui abolit la distance, nous sommes dans un monde où l'altérité devient un moteur de l'histoire, et la meilleure et la façon optimale de procéder, c'est bien entendu d'intégrer. L'Ukraine va servir d'un certain point de vue d'expérimentation à quelque chose qui ne saurait avoir d'exclusif, c'est-à-dire que nous devons penser l'Europe de demain, le monde de demain, à partir de cette intégration. Alors, ça, c'est une idée cadre. Il ne faut pas la tenir pour une simple précaution oratoire. Si on a dans la tête uniquement le cas ukrainien pour traiter le problème ukrainien, eh bien, on ne progressera pas. La meilleure façon de traiter l'urgence ukrainienne aujourd'hui, c'est de penser dans un cadre beaucoup plus large. Et vous posez une question, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est difficile, mais qui est un grand défi, je dirais, pour l'avenir immédiat, c'est-à-dire pas pour dans 10 ans, pour maintenant, qui est savoir adapter l'éducation, la fonction éducative, aux données nouvelles de la mondialisation. Ça passe, je crois, par trois priorités. D'abord, il convient d'agir sur l'école comme espace de socialisation. Dans nos manuels scolaires, dans les livres d'histoire, dans les films, on présente l'école comme étant l'école de la République. Il faut que l'école de la République soit l'école du monde. Et il faut donc qu'on s'habitue à l'idée que l'école forme des humains et non des nationaux. C'est très très important. Il faut pour cela que l'école multiplie ses fonctions d'intégration. C'est-à-dire pas seulement autour du drapeau tricolore, mais autour d'un certain nombre de valeurs humanistes. Il faut que l'école prolonge cette ambition humaniste par la mise en place de structures concrètes qui puissent permettre à celles et ceux qui n'ont pas les codes de notre société de l'apprendre de façon rapide et forte. Il faut qu'il y ait des services à l'intérieur de l'école qui soient spécialisés dans ces logiques d'intégration, c'est-à-dire qu'ils sachent prendre en charge les loisirs, qui sache prendre en charge la pratique des cultures, la pratique des langues. C'est pas forcément sur les bancs de l'école, mais ça peut être par toute une série d'activités extérieures qui doivent être coordonnées à l'intérieur même de l'école. L'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu où on doit apprendre à aimer l'altérité. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est bien entendu ce qui se rapporte au programme. Il faut enseigner la mondialisation à l'école. Et ça, je dirais à tous les niveaux, primaire, secondaire, bien entendu supérieur. Ça veut dire quoi, apprendre la mondialisation? Ça veut dire d'abord apprendre ce qui nous est commun, apprendre notre planète. Il y a très peu de cours qui portent sur notre planète, notamment sur la sécurité globale. Dès le primaire, on doit enseigner la sécurité climatique, la sécurité environnementale d'une façon générale, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire. Montrer que nous sommes, femmes et hommes, jeunes filles, jeunes garçons de ce monde, unis par la recherche de la même sécurité, c'est-à-dire la même sécurité, c'est-à-dire la sécurité de notre planète. Ce qui est aussi une fonction d'éducation, apprendre à un enfant de 5-6 ans ce que signifie économiser de l'énergie, ce que signifie éteindre l'électricité dans une pièce, ce que signifie se prémunir d'un virus, c'est tout à fait possible, faisable, ça doit être au centre de notre réflexion. Et penser que le principal des menaces auxquelles nous nous trouvons confrontés sont des menaces globales. Et ça, ça veut dire bouleverser les programmes, et ça veut dire aussi élargir les programmes. C'est-à-dire, l'histoire qui est enseignée ne peut plus être seulement l'histoire de France, ça doit être l'histoire du monde. Il n'est pas normal que dans notre monde actuel, l'histoire de la Chine ne soit pas enseignée. Que l'histoire de l'Afrique précoloniale soit totalement ignorée, comme si elle n'existait pas. Que l'histoire multimillénaire du Moyen-Orient, qui est un des volcans du monde actuellement, ne soit pas enseignée. Et ça, c'est vrai pour l'histoire, c'est vrai pour la géographie, c'est vrai pour la littérature. La littérature étrangère doit être absolument enseignée. Bien sûr qu'il faut continuer à enseigner Victor Hugo, Racine et Corneille. D'ailleurs, j'observe qu'ils ne sont plus enseignés. Hein? Il faut que Shakespeare, il faut que la poésie chinoise, que la poésie orientale, que les contes africains soient aussi enseignés. Et ça, vous créez ainsi la femme et l'homme cosmopolite et universel. Et puis aussi dans les sciences exactes. Les sciences exactes ne peuvent pas uniquement porter sur nos seules sociétés occidentales modernes. Troisième bloc enfin, après la démultiplication des services, la réforme des programmes, c'est effectivement revoir la langue. La langue, c'est ce qui nous permet à nous, humains, de communiquer entre nous. Et quand vous accueillez des jeunes qui viennent d'Ukraine, puisque c'était de là que partait votre question, on s'aperçoit, ce qui est tout à fait normal, que certaines d'entre eux ne parlent pas un mot de français. Les intégrer, ça veut dire donner à celles et ceux qui ne parlent pas notre langue la chance de l'apprendre. Il faut inverser la proposition, notamment dans cette très médiocre campagne présidentielle, on entend, à savoir que ceux qui ne parleraient pas le français n'auraient pas le droit de vivre en France. C'est ce que certains candidats viennent proposer, et pas forcément les plus extrémistes. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. C'est accueillir quelqu'un, on ne va pas regarder sa langue pour se demander s'il peut être sauvé ou pas, et lui donner d'urgence la possibilité de parler notre langue, et nous, la possibilité de parler avec lui ou avec elle une autre langue. Et ça, ça implique une réadaptation pédagogique de l'enseignement des langues, mais ça signifie aussi un apprentissage actif de toutes les formes modernes de communication, à travers notamment la numérisation, le langage informatique. Et tout cela, c'est en quelque sorte le point de départ d'une altérité concrète. Mmh.
Merci pour votre réponse, Bertrand Badi. Alors, de la démultiplication des services, de l'appréhension de la mondialisation, de la globalisation, des NTIC, donc rentrer dans que la France devienne cosmopolite, finalement. Est-ce que vous pensez sincèrement que la France, avec même dans le cadre de la campagne présidentielle actuelle, vous voyez, que la France aura tous les moyens pour subvenir aux besoins des Ukrainiens, parce que les Ukrainiens aussi vont emmener leur propre culture en France? Comment, nous, les Français, on va s'acclimater, vous voyez, à cela? Comment, plus globalement, on s'acclimate à l'immigration, en général, vous voyez? Est-ce qu'on doit omettre complètement nos valeurs républicaines au profit du, si je puis dire, cosmopolitisme? Ou est-ce qu'on doit plutôt mettre en lumière nos valeurs, vous voyez, pour qu'ils s'acclimatent aux nôtres?
Alors, d'abord, avant de savoir qui doit s'adapter à l'autre, il faut admettre que la première urgence, c'est que nous nous adaptions, nous, à notre temps. Je ne dis même pas s'adapter à l'autre, je dis s'adapter à notre temps. Nous sommes dans un temps de communication et nous sommes dans un temps de mobilité. Ça peut plaire ou déplaire. Il y a des gens qui préfèrent vivre au fond des grottes plutôt que d'habiter dans des immeubles modernes. Hein. Ça, c'est une affaire de goût. Mais il y a une affaire de réalité. Nous sommes dans un monde qui est définitivement mobile. On ne va pas arrêter la circulation des ondes, des mots, des idées, des images, ni des personnes, ni des marchandises. Parce que la technologie nous fait accéder à un niveau de mobilité qui ne peut pas être aboli sur décret. Bon, les nostalgiques, ils peuvent toujours se retirer dans la montagne, dans quelques refuges, et vivre dans leur propre asepsie. Mais si on veut être de notre temps et de notre monde, il faut considérer que le cadre national existe toujours, mais ce n'est plus le seul cadre. Nous sommes dans des logiques concentriques. De même que lorsqu'on est dans un cadre national, on reste attaché à sa ville, à sa région, à sa province. Eh bien, lorsque on est citoyenne ou citoyen du monde, de la mondialisation, on doit savoir être en même temps de sa ville, de sa région, de sa nation, de son continent et du monde. Et du monde. Et s'apercevoir qu'un être humain qui est né au Burkina Faso, en Bolivie ou au Népal est exactement de même nature. Et est-ce que ça vaut abdication de... Non. Personne ne demande à ce que chacun continue à vivre ses propres valeurs. Et je vous pose une question. Est-ce qu'en France, tout le monde se réfère aux mêmes valeurs? Est-ce que tout le monde en France a la même conception de la liberté? Est-ce que tout le monde en France a la même conception de la République? Est-ce que tout le monde en France a la même conception de la laïcité? L'idée des valeurs communes est un mythe. Et moi, je me sens considérablement plus proche des étudiants que je rencontre dans les amphis d'Abidjan ou de Bagdad que de certains étudiants ou collègues que je rencontre ici et de je m'aperçois que rien ne m'unit à elles ou à eux. Bon. Donc, il y a là toute une pyramide de l'identification. Avec, à chaque niveau, sa part aussi de conflictualité et de différence. Et personne n'abolira jamais ces différences. Maintenant, vous posez la question, effectivement, du mixage des cultures. Mais quelle découverte! Mais quelle découverte! Mais ça fait des milliers d'années que les cultures se rencontrent, qu'elles interagissent, qu'elles s'enrichissent les unes les autres. Où est la nouveauté? Dans le rythme, dans l'intensité des échanges, dans la fréquence des échanges, sans aucun doute. Mais dans l'idée même qu'une culture s'enrichit au contact des autres, c'est une idée vieille comme le monde. Est-ce que notre christianisme tant vanté par les tenants d'une vision identitariste? Est-ce que notre christianisme n'aurait rien emprunté au Proche-Orient, au judaïsme? Est-ce qu'il n'aurait rien emprunté, absolument rien, à tous ces courants qui venaient de Mésopotamie et qui venaient de l'Indus et qui venaient d'Afrique? Mais c'est un mythe. Donc, au contraire, plus les cultures se rencontrent et plus elles s'enrichissent les unes les autres.
Et donc, d'après vous, faudrait-il instaurer maintenant des quotas, en sachant que est-ce que la France a les moyens, donc les ressources, donc pour accueillir donc, tant finalement de personnes, et là en l'occurrence des Ukrainiens, mais dans l'immigration, est-ce que la France a ces ressources-là?
Écoutez, si nous comparons ce qu'est le PIB par habitant et par an en France à ce qu'il est aux pays d'Afrique et du Moyen-Orient, nous aurions la marge pour multiplier par 100 notre capacité d'accueil. Je vais vous donner un chiffre qui vous fera réfléchir. PIB par habitant et par an en République centrafricaine, autour de $600. PIB par habitant et par an au Luxembourg, aux alentours de $110 000. Donc, si vous mettez ces deux chiffres en regard l'un de l'autre, vous comprenez que d'ici à ce que nous retombions à un niveau qui est celui de la République centrafricaine, il y a beaucoup de marge. D'ailleurs, personne ne le demande à personne. Il s'agit tout simplement de savoir accueillir une part de la population qui n'est jamais énorme. Il ne faut pas oublier que la migration dans le monde, réfugiés compris, c'est 3% de la population mondiale. Donc ce n'est pas de nature à bouleverser les grands équilibres intérieurs. Ça, c'est ceux qui fréquentent les marchés électoraux et qui cherchent à affûter de faux arguments pour appâter le client, c'est-à-dire les lecteurs, qui le disent. Mais ce sont des mensonges. Maintenant, j'ai horreur de ce mot « quota », comme si les migrants étaient des poissons, des marchandises. Mais il faut voir que la migration, qui était marginale autrefois, va devenir normale, j'allais dire banale, aujourd'hui et demain. Et donc, il faut faire avec la migration comme tout le reste des activités humaines, c'est-à-dire un régime de gouvernance des flux migratoires. On ne peut pas imaginer, au-delà même du problème de la capacité des pays, une migration totalement anarchique. Mais il faut que ce régime de migration soit conforme non pas au bien des seules sociétés d'accueil, mais de trois pôles, les sociétés d'accueil, les sociétés de départ et les migrants eux-mêmes. Et il faut créer au niveau mondial de grandes agences internationales qui puissent réguler ces flux pour le bien de tous. Et à ce moment-là, on ne parlera pas de quotas, mais on parlera d'orientation des uns et des autres. Quand vous quittez le Sahel parce que la situation y est désespérée, tant sur le plan climatique que sanitaire que économique, vous souhaitez pouvoir donner une chance à votre vie et à celle de votre famille dans un autre pays. Donc, si on vous aide à trouver ce pays, ça sera pour le bien de tous.
Et donc la dernière question que j'aimerais vous poser pour clore cette interview, l'éventualité de créer une assemblée de jeunesse. Voilà. Une assemblée de jeunesse, qu'est-ce que vous en pensez? Une assemblée de jeunesse en France qui permettrait éventuellement de relier tous les jeunes entre eux, peu importe leur pays d'appartenance, peu importe leur valeur, leur culture, qu'on s'associe tous ensemble en tant que jeunes, en tant que tels, pour parler de politique et pour parler de tout ce qui se déroule en ce moment dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, j'ai peur de vous décevoir en disant que ça ne m'emballe pas comme idée. Il ne faut pas faire des jeunes une catégorie à part. L'Assemblée, elle est là pour représenter. Et la représentation acquise pour débattre. et le débat réalisé pour décider. Si vous isolez une partie de la population, vous pourrez effectivement faire valoir que vous représentez une partie de la population mondiale. Mais est-ce qu'un débat uniquement entre jeunes, c'est-à-dire qu'il ne se fasse pas intergénérationnellement, a un sens? C'est au contraire la confrontation avec celles et ceux qui appartiennent à d'autres classes d'âge qui enrichira le débat. Vous savez, j'ai horreur des assemblées où les gens se ressemblent. Plus les gens sont divers, mieux ça vaut. Et surtout au niveau de la décision, quand il s'agira soit de décider, soit ne serait-ce que de suggérer des décisions, il faudra que ça se fasse avec celles et ceux qui sont les autres partis à cette décision. Si vous isolez une catégorie, vous n'y arriverez pas. Même du temps de la lutte des classes, personne n'a pensé créer un parlement de la classe ouvrière. Ça n'aurait pas grand sens. Il faut expliquer aux jeunes qu'ils le sont, mais ils le trouvent tout seuls, mais surtout qu'ils sont citoyens dans un monde où il y a quantité d'autres personnes, des plus âgés aux moins âgés, et avec lesquels ils doivent coexister. Donc non, au risque de vous décevoir, je ne suis pas favorable. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Badie, pour cette interview. Et on vous retrouvera sûrement bientôt pour d'autres nouvelles questions. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons vous revoir bientôt sur les prochains épisodes du Café de la Jeunesse. Au revoir.